Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Un hors-champ aujourd'hui en hommage à Jacqueline Risset. Vous allez le découvrir dans cette émission. Jacqueline Risset était à la fois poète, écrivain, traductrice. Grâce à elle, nous avons compris la Divine Comédie de Dante. Grâce à elle, nous avons vu autrement les films de Fellini. Grâce à elle, nous savons mieux dormir et mieux rêver. Son dernier livre s'intitulait « Les instants, les éclairs ». Elle a disparu la semaine dernière. Ce soir, nous rediffusons cette émission avec Jacqueline Risset, diffusée en mars 2010. Hors champ. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Jacqueline Risset. Jacqueline Risset, vous êtes poète, écrivain, traductrice. Vous enseignez à l'Université Sapienza à Rome, une université prestigieuse. Pourquoi avez-vous choisi l'Italie ?
J'ai choisi l'Italie un peu par fuite. C'est vrai que j'avais une espèce de fascination depuis l'enfance vers Florence, vers des lieux qui me semblaient différents, essentiellement différents, complètement différents. Mais ensuite, je l'avais un peu perdu de vue. Et puis, quand j'étais à Paris, à l'école normale, j'avais une impression que toute la vie était déjà signée, marquée, tracée, que les élèves mâles de l'école épousaient les élèves femelles, disons, de la même génération, de la même promotion, et qu'ils faisaient des couples de professeurs qui allaient d'abord en province, puis qui se rapprochaient de Paris. Tout ça me semblait sinistre. Et j'avais envie de sortir de là, de complètement de là. Et j'ai décidé de faire de l'italien parce que personne n'en avait jamais fait, disons. Si, il y avait eu quelqu'un du côté des garçons, mais à ce moment-là, c'était encore séparé, et du côté des filles, pas du tout. Et donc, j'avais, et c'était un privilège quand même, on avait droit, si on faisait des langues vivantes, à 2 ans à l'étranger. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire de l'italien, en pensant que l'Italie était intéressante, d'une part parce qu'il y avait la Renaissance, et d'autre part parce que il y avait le monde actuel, contemporain, qui me semblait une espèce d'étrange lieu de transformation, de métamorphose politique, de rencontre, qui était tout à fait différent de ce que je voyais en France.
Et pourtant, le premier essai que vous avez publié porte non pas sur un écrivain italien, et on va reparler de votre passion pour Dante tout à l'heure, que vous nous avez fait découvrir dans votre magnifique traduction, mais porté sur Maurice Sève. Pourquoi ?
Parce que dans les poètes qu'on étudiait, que j'étudiais avec un professeur remarquable en hippocagne à Fénelon, et qui était Monsieur Lemaître, qui nous faisait des explications de textes merveilleuses de la littérature française et aussi grecque, de l'Odyssée, par exemple. Mais ce qu'il y avait de plus beau, moi, ce qui m'a frappé, mais je veux dire de façon définitive, c'était les poèmes de Maurice Sève, parce que ils avaient quelque chose de intensément mystérieux, c'est-à-dire que plus on les étudiait, et on étudiait beaucoup, c'était l'explication de texte, c'était quelque chose de sérieux, disons, d'approfondi, de continué. Mais, je veux dire, chaque fois, on était devant le même mystère. Et je crois que c'est lié à cette civilisation extraordinaire de la Renaissance, et en particulier, et ça c'est chez Sève, ça existe, le rapport entre le texte et l'image. C'est-à-dire que pour nous, le texte existe, l'image visage aussi, on peut les mettre à côté, mais jamais on ne perçoit les deux l'un par l'autre, l'un à travers l'autre, comme la Renaissance surtout le percevait. Ce qu'on appelait les emblèmes, c'était des images qui avaient en même temps une fonction écrite, il y avait un écrit dedans, et ils étaient, chez Sève par exemple, associés à un texte écrit, et ce qui se passait vraiment entre les deux. C'était un peu en même temps s'approcher d'une civilisation, comme par exemple les arts de la mémoire. Par exemple, la Divine Comédie est un art de la mémoire, c'est-à-dire que Dante fixe, pour que les vivants se rappellent ce qui se passe après la mort, il a fixé les péchés, les récompenses dans des lieux du paradis, de l'enfer, du purgatoire, de telle façon que tout cela soit associé. Pour nous, ce sont des choses artificielles. Alors, c'était des choses ressenties directement. L'espace et le temps, le lieu et la pensée circulaient tous ensemble.
Morisset vous a-t-il donné l'espoir et finalement la possibilité de croire en vous-même pour pouvoir un jour faire de la poésie, écrire de la poésie, être dans la poésie?
Ah oui, certainement. Je veux dire, j'avais l'impression d'y être, mais sans l'exprimer même. C'est-à-dire, j'avais l'impression de trouver un pays. Il s'agissait ensuite de le mettre en forme, de le réaliser. C'est ce qui est le plus long. Ce qui pour moi était très long, très très long. Et disons que la traduction a été aussi un travail vers la poésie. J'écrivais de la poésie avant de traduire Dante, mais cette traduction m'a fait un effet direct, disons biographique, dans le rapport à moi-même, disons. Un rapport qui est devenu tout d'un coup beaucoup plus direct.
Nous allons écouter un poète du XXe siècle dont vous vous sentez proche. Nous écoutons la voix de Francis Ponge.
Lorsque je commence à écrire devant une fenêtre regardant au midi, c'est que le soleil, ayant franchi les monts sénestres de la nuit, et traverser la couche informe des vapeurs oniriques qui les surplombent, se trouve assez haut déjà dans le ciel pour que sa lumière ait acquis une certaine force. Il frappe alors comme une cible ma tempe gauche et commande ainsi, la structure de l'homme étant en hélice, les articulations de ma main droite, laquelle trace les présents signes noirs, qui ne sont donc peut-être, n'est-ce pas bien ainsi, que la formulation plus ou moins précise de mon ombre portée intellectuelle? Que dis-je? Seulement l'ombre, et n'est-ce pas mieux encore, de mon bec de plume lui-même? Oui, c'est ainsi que Horus s'élève dans le ciel comme l'épervier victorieux aussitôt de toutes les autres étoiles. Pourtant, sa force en peu d'instants croît encore, éblouissant ma raison, qui ne peut plus le défilir dès lors que comme cette source intense de lumières et d'idées qui fonctionne le matin dans le lobe antérieur gauche de ma tête. Et maintenant, c'est le délire autour de midi. Ô soleil, monstrueux ami, putain rousse, tenant ta tête horripilante dans mon bras gauche, s'est allongé contre toi tout au long de la longue cuisse de cet après-midi, que dans les convulsions du crépuscule, parmi les draps sens dessus-dessous de la réciprocité, trouvant enfin dès longtemps ouvertes les portes humides de ton centre, j'y enfoncerai mon porte-plume et t'inonderai de mon encre opaline par le côté droit. Le soleil était entré dans le miroir, la vérité ne s'y vit plus. Aussitôt éblouie et bientôt cuite, coagulée comme un œuf. Fin du texte. De ce soleil, je n'ai lu que le début pour la définition de l'objet et la fin. Mais c'est un long texte qui comporte des chapitres intitulés, par exemple, « Le soleil toupie à fouetter ». Et j'y reprends là, sans aucune suppression, un très grand nombre de notes, parmi lesquelles certaines très anciennes, datant de ma première jeunesse. Car le thème du jour et de la nuit, le thème du soleil est présent constamment dans mon œuvre dès le début. Parce qu'évidemment, c'est un des thèmes les plus importants de quelqu'un qui a pu se concevoir un instant comme un élève des cosmogonistes.
Vous écoutez avec intensité la voix de Francis Ponge, Jacqueline
Risset. Oui, parce que je retrouve à entendre, je ne l'avais jamais entendu lu par lui ce poème, et je pense que cet élève des cosmogonistes, comme il se définit, a une capacité irréfutable. D'interroger le langage, c'est-à-dire de faire rendre au langage tout ce qu'il est capable de donner, et c'est-à-dire d'être une sorte d'invasion du réel. On sent cette sorte de rapport direct, immédiat, avec la perception des objets en eux-mêmes, avec la perception du langage, et aussi avec toute la poésie qui est présente. Par exemple, il y a toute une sorte de variation dans la fin de cette pénétration du soleil et aussi par la plume, cette espèce de rapport érotique. C'est en fait aussi une espèce de parodie de Baudelaire, c'est-à-dire aussi cette parodie du rapport intense, du rapport amoureux, du rapport érotique, comme rapport aussi de l'écriture. Et c'est une façon de sentir l'écriture. Ça ne veut pas dire ramener tout le réel, toute la puissance du réel au simple écrit, c'est-à-dire en faire une sorte d'abstraction. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que l'écriture, tout d'un coup, est saisie, comme il le dit, par quelque chose, par une fièvre, par une frénésie, par quelque chose qui saisit et qui la transforme et qui lui fait toucher autre chose.
Tout à l'heure, Francis Ponge évoquait les thèmes essentiels pour lui, comme la nuit, le jour. Et vous avez publié un texte qui s'intitule « Puissance au pluriel du sommeil ». Je vais lire un très court extrait, un chapitre qui s'intitule « Présence ». Souvenir de la grande plage de nuit immobile que le sommeil recouvre et tout d'un coup réduite, déchirée par la peur et les brusques levées des cauchemars. Point. Refuge dans le lit du petit frère. Ou encore la première impossibilité, sommeil inaccessible, mal aux dents. L'être le plus proche est là, au bord du lit, la mère. Elle est là, mais séparée par une distance infranchissable, à cause de la douleur qui est plus proche. Point. Stupeur. Deux points. Alors, on est seul, point d'interrogation, toujours, point d'interrogation.
Oui, c'est un texte qui part beaucoup de l'enfance. Dans l'enfance, tout est intense et symbolique en même temps. Et pour moi, j'étais frappée en enfant par ce mystère du sommeil. C'est-à-dire, j'essayais, disons, pratiquement chaque soir, chaque nuit, de capturer l'instant de passage de la veille au sommeil, sans jamais y arriver. C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte joué, mystifié par cet événement, mais qui est un événement quotidien, disons, on traverse tous les jours ce mystère. Et les rêves sont à l'intérieur du sommeil. Les rêves sont une espèce de produit du sommeil. C'est le sommeil qui compte finalement, plus que les rêves. Il y a cet instant dans lequel dit « bon, d'accord, c'est toi qui prends les rênes ». Mais petit à petit, la chose se retourne parce que ce peuple des rêves vous transporte à ce moment-là. Et alors, il y a, je pense, une possibilité de franchir des espaces et de sortir aussi du sommeil. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la sortie du sommeil. C'est-à-dire le moment où le rêve se complique. Et à un certain moment, on ne veut pas sortir du rêve. Il y a encore quelque chose qu'on veut comprendre dans le rêve. Et alors, il y a une espèce d'activité intellectuelle frénétique qui se passe, qui s'accélère, et on sent que petit à petit, il faut sortir. Il y a ce moment dans lequel la chose ne veut plus continuer, et on sort, en effet. Et le réveil Et aussi un moment extraordinaire pour moi, je veux dire. C'est un moment d'ailleurs, quelquefois, où on a l'impression de sortir brisé parce qu'on a traversé, travaillé, agité des quantités de lieux et d'espaces contraires, et d'autres dans lesquels tout est renouvelé. Il y a aussi les rêves dans lesquels on a rêvé de quelqu'un qu'on aimait dans le rêve. Et qui était quelqu'un qui vous était parfaitement indifférent jusqu'à ce moment-là. Et dans le rêve, dans la journée, cette personne inconnue et pratiquement, enfin, ou connue, mais pratiquement indifférente, tout d'un coup vibre et est la personne qui vous est la plus chère. Et donc, il y a une sorte de variation inouïe qui se passe, je veux dire, là aussi, presque tous les jours, on traverse des expériences affectives qu'on n'avait pas prévues et qui sont quelquefois absolument passionnantes. Parce qu'on peut se demander pourquoi cette personne-là, pas une autre.
Vous évoquez aussi les dangers du sommeil, je vous cite, « Ce sont les animaux menaçants qui sortent de lui et débordent vite dans l'espace de la chambre, grand chat aux yeux jaunes, singe grimpé sur l'oreiller. » Et effectivement, être en proie au rêve, n'est-ce pas aussi pour vous la possibilité, Jacqueline Risset, de pouvoir accéder, justement, quand vous sortez du tunnel ou de cet état très particulier qu'est le sommeil, de pouvoir accéder à l'écriture de la poésie?
Oui, il y a un rapport immédiat, disons. Un rapport immédiat, mais très médiat. Parce que, par exemple, on s'aperçoit très bien que les récits de rêves qu'on fait, et je ne parle pas d'interprétation, mais simplement le récit. Vous sortez d'un rêve absolument passionné par ce rêve que vous avez fait. Vous le racontez à la personne qui vous est la plus proche et que ça n'intéresse pas du tout. Et il y a une espèce de, finalement, d'aplatissement qui est lié à la distance extrêmement grande entre cette effervescence intellectuelle aussi, pas seulement sentimentale, pas seulement sensible, qui se passe dans le rêve et la platitude du récit que vous vous trouvez en train de faire. Donc, je pense que la poésie a à voir directement avec le rêve, mais tout à fait indirectement, parce qu'il faut essayer de retrouver dans le langage même la quantité, la qualité d'intensité dont vous sortez, dont vous venez de sortir. Et à mon avis, je crois que c'est peut-être Kafka celui qui l'a trouvé le mieux, parce que tous ces récits qui sont des récits de rêve, on le sent, on le perçoit, mais jamais ils ne sont décrits comme des rêves, parce que quand il raconte des rêves, des récits de rêves, Kafka, il vous dit par exemple, ah ben moi cette nuit j'ai fait des rêves mais j'ai pas dormi. Donc ces espèces de rêves qui sont suspendus, qui sont des sortes de bulles très étranges, mais en tout cas lui il sait comment raconter les rêves, comment éviter cet aplatissement inévitable. Lui il le sait. Mais pas beaucoup.
Il y a des artistes qui savent utiliser leurs rêves pour pouvoir traduire leur imaginaire et introduire dans leur propre œuvre cette capacité onirique. Il y en a un que vous avez eu la chance de connaître et de très bien connaître et sur lequel vous avez écrit. Je vous propose d'écouter sa voix. Il s'agit de Federico Fellini.
Probabilmente se non fosse esistito il cinematografo, se non avessi incontrato Rossellini e se il circo equestre fosse ancora così come spettacolo di una certa attualità, mi sarebbe piaciuto moltissimo fare il direttore di un gran circo equestre, perché esattamente il circo equestre è un miscuglio di tecnica, di precisione e di improvvisazione. Mentre si svolge lo spettacolo, preparato e provato, nello stesso tempo si rischia veramente qualcosa, cioè nello stesso tempo si sta vivendo, poi ci sono delle cose che non ha niente a che fare con la creazione fantastica, con l'invenzione, cioè ci sono le giraffe, ci sono le tigri, ci sono gli animali. Allora questo modo di creare e di vivere nello stesso tempo, senza l'isolamento ascetico che deve avere un letterato o un pittore, cioè ma di essere tuffato mentre stai facendo la tua creazione, mentre tu crei, nello stesso momento stai vivendo. Questo così è lo spettacolo del circo equestre, c'ha questa questa forza, questa, questa, questo, questo coraggio. E mi pare che anche il cinematografo sia esattamente la stessa cosa. Infatti, fare un film cos'è? Sì, è tentare di mettere ordine così in certe fantasie e di raccontarle con una certa precisione, però mentre fai il film, la vita della troupe, gli incontri che fai, le nuove città che sei costretto a visitare per ambientare le tue storie, e poi tutta la vita di un'equipe cinematografica ti ricarica, ti emoziona, ti arricchisce, nello stesso tempo in cui tu fai il tuo lavoro.
Quelle voix douce pour cet homme à cette stature imposante. Vous avez la lourde tâche de nous traduire ou de synthétiser ce qu'il vient de dire, Jacques Henrissé.
Il disait une chose.
Il parle tellement vite.
Oui, il était toujours en proie à une sorte d'invention qu'il avait toujours. Et cette petite voix qu'il avait, c'était une voix très douce. Et il avait cette idée que le cirque équestre, ce qu'il appelle le circo équestre, c'est le cirque dans lequel. Le directeur du cirque, qui est avec les girafes, avec les ours, avec tous les animaux qui sont là, et ce qu'il a de différent par rapport aux artistes et aux écrivains, c'est que en même temps qu'il crée, il vit. C'est-à-dire que les émotions qu'il a dans les rapports avec ses animaux, par exemple, qu'il dirige, sont aussi fortes, sont plus fortes que d'autres expériences de vie directe où il n'est pas question de créer quoi que ce soit. Il dit le cinéma, la vie de la troupe est quelque chose de tellement intense, de tellement vivant que créer, c'est vivre. Et c'est ce qui lui plaisait dans le cinéma. Et en fait, le voir diriger une troupe sur le set, c'était extraordinaire. Parce qu'il avait en même temps quelque chose dont il ne parle pas quand il en parle, un côté d'un démiurge. C'est-à-dire qu'il avait, c'était la scène dans son dernier film, Sur la Lune. Il y avait une centaine de personnes sur le set, je dirais. Et lui, il circulait très doucement.
Quand vous dites sur le set, sur le plateau.
Oui, sur le plateau. Oui, j'ai employé le mot italien, enfin anglais. Mais et lui, il circulait là, au milieu des autres, avec les mains, comme si c'était, il faisait une chose de sculpture. Et en fait, il était en train de sculpter ce qui se passait. Mais il était comme pris, comme rêveur. Il y a une très belle photo où on le voit appuyé sur la caméra et rêveur. Et je veux dire, il avait très, très souvent cette expression rêveuse qui était, je veux dire, l'indice de cette circulation incessante qu'il avait. Et moi, j'étais fascinée par certains projets qu'il avait, dont il disait, par exemple, un projet dont il m'avait parlé et qu'il a ensuite envoyé au Cahier du cinéma, soit ça a été publié seulement là, le projet de faire un film sur une trentaine d'enfants entre 2 et 7 ans, dans un immeuble de banlieue et qui passeraient leur temps à circuler entre ces couloirs et ces escaliers et les cours, etc., avec cette intensité de vie, cette porosité de l'inconscient que les adultes perdent et que les enfants perçoivent. Alors ces espèces de aussi ces intensités d'amour, de bataille, d'événements qui se passent, qui se tissent dans leur vie même sans qu'ils parlent. Et j'ai trouvé que cette idée du film, je veux dire, rien que son idée était merveilleuse. Et lui avait une capacité vraiment de percevoir le monde. À mon avis, moi j'étais même tellement impressionnée par lui que je trouvais qu'il avait quelque chose de plus que ses films. C'est comme s'il avait dans son... D'abord, il avait aussi une capacité d'écrivain formidable, que moi j'avais vu simplement dans ses interviews, simplement. Une capacité d'exprimer des choses très quasi inexprimable, je veux dire, par exemple, des épiphanies, je veux dire, c'est ce qui le rend parent de Proust et de Joyce, par exemple. C'est, mais vraiment, pour lui, les épiphanies, les instants déchirés, disons, ou fulgurants de l'enfance sont la base de tout. Je veux dire, et finalement, ces films, lui, il dit, finalement, j'aurais voulu voir un film qui soit une seule image et qui corresponde à cette totalité instantanée que l'enfance rencontre.
Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, Federico Fellini, Jacqueline Risset, et comment on devient l'ami de Federico Fellini?
C'est une chose, c'était, la première fois où je l'ai vu, c'était, j'étais avec le poète Andrea Zanzotto, qui est un très grand poète et qui était ami de Fellini. Et c'était le moment où Fellini était en train de tourner le Casanova. Et ce Casanova le mettait dans une situation d'angoisse extraordinaire, à tel point qu'il a arrêté de le faire à un certain moment. Alors naturellement, c'était un drame gigantesque parce que c'était pas lui simplement, c'est pas comme quand un écrivain a l'angoisse de la page blanche. Là, il y avait des centaines de personnes qui dépendaient même dans la vie, dans leur existence, dans leur travail de lui. Puis je l'ai revu plus longtemps après. Moi, je venais de traduire l'Enfer de Dante et j'ai amené. Il y avait l'éditeur qui était Louis Audibert aux éditions Flammarion, qui avait comme ambition en réalité de devenir l'assistant de Fellini. Et donc on va le voir. Alors on est allé le voir et c'était le moment où il était en train de tourner, je ne me rappelle plus quel film, Intervista je crois. Et là il nous a refusé, il a dit non, vous êtes venu à 3, j'avais dit à 2, puis vous êtes en retard, il n'est pas question. Puis il nous a rappelé, et à ce moment-là, moi je lui ai donné la traduction de Dante, et c'est là où j'ai eu aussi une surprise, parce qu'il m'a retéléphoné tout de suite après, me disant, mais c'est comme une œuvre de médium que tu as fait, je veux dire, on sent Dante directement. Alors moi, ça m'a fait un plaisir énorme, d'autant plus que c'était lui. Et à partir de ce moment-là, on s'est vu très, très, très souvent. Et il a voulu que je traduise, que je fasse les sous-titres de ce Intervista pour Cannes. Et alors, j'ai fait ces sous-titres pour Cannes, très bien. Mais ensuite, ça a été une espèce de vrai drame parce qu'il m'a dit, mais fais aussi le doublage. Et là, ça a été la guerre avec les doubleurs épouvantables français. En fait, tout le monde, le doublage français a une réputation infernale. Et donc, il a dit, mais ça ne fait rien. Moi, j'ai dit, je ne veux pas travailler avec ces gens parce que, je veux dire, ils ne comprennent pas du tout ce que moi, je leur dis. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Et finalement, il m'a dit, ça ne fait rien parce que, en France, les gens qui aiment le cinéma vont voir les films en version originale. Mais en fait, donc, c'était et puis là, j'ai continué à le voir très souvent. Et je veux dire, c'était pour moi une richesse inouïe de l'avoir et de le voir travailler, et de le voir vivre.
Vous avez donc publié 2 livres sur lui. L'un s'intitule « L'annonce faite à Federico », l'autre s'appelle « Scritti su Fellini ». Et donc, c'est Dante qui vous a permis d'avoir accès à Federico Fellini,
oui, finalement, oui.
D'une certaine façon. Nous allons écouter la voix de Michel Bouquet. Nous avons choisi le paradis.
La gloire de celui dont tout est mu pénètre l'univers et resplendit en un lieu davantage et moins dans l'autre. Au ciel qui prend le plus de sa lumière, j'y fus. Et vis merveille, que redire ne sait l'esprit qui de là-haut descend, ni ne pourrait, car pour joindre le terme de son désir, il plonge si profond qu'à le suivre en ses voies mémoire bronche. Sur le mont s'achevait la matinée, le soir tombait aux rives de l'Europe, l'autre hémisphère était déjà tout blanc. Lorsque je vis se tourner à Senestre, Biétrise, et remirer dans le soleil, œil d'aigle ainsi nulle fois ne s'y plante. Et comme un second ray sort du premier, rejaillissant vers le haut à la guise du pèlerin qui se met au retour, son geste, entrant par la vue en mon âme, qui son image boit, dira mon geste. Au soleil je fichai mes yeux, comme ont que nos âmes mortelles.
Comment entre-t-on naturellement, comme vous avez su le faire, Jacqueline Risset, dans l'univers de Dante, pour nous le rendre naturel, comme il l'est en Italie, car en Italie, je crois qu'il faut le dire et le redire, tous les enfants, depuis leur plus jeune âge, connaissent Dante. Pour reprendre le mot que Federico Fellini a employé pour qualifier votre travail, est-ce un travail de médium que vous avez pu faire ?
En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur Dante, je pensais qu'on ne pouvait pas le traduire. J'ai fait un livre sur Dante parce que tout d'un coup, j'ai eu la sensation que c'était un poète extrêmement fort, extrêmement important, et qu'il ne suffisait pas de voir les images de Gustave Doré pour approcher ce monde, et que le purgatoire, l'enfer, le paradis, c'est des choses qui regardent le Moyen-Âge, en fait. Et moi, je ne voyais pas comment on pouvait s'approcher de cela de façon sérieuse, disons. Et quand j'ai lu Dante dans le texte, et surtout dans le texte tel qu'il avait été réédité par quelqu'un que je connaissais qui s'appelait Giorgio Petrocchi, il a simplement fait une chose, il a décrassé le texte qui avait été transmis par la tradition, disons, en enlevant les petits ajouts qui avaient été faits au cours des siècles. Et là, tout d'un coup, on sentait l'âpreté et la densité de cette langue qui la rendait tout à fait proche, finalement, de ce qu'il y avait de plus fort dans la poésie. Je veux dire, dans les illuminations de Rimbaud, par exemple, je veux dire, ça avait cette intensité indéniable, cette proximité surprenante. Et je me suis dit, il faut quand même que ce soit plus connu en France. Alors j'ai fait ce livre Dante écrivain en pensant que, étant donné qu'en France, on était à ce moment-là passionné par le langage, c'était le moment de Barthes, de la sémiotique, etc. Je me suis dit, si les gens voient déjà que Dante était un écrivain extraordinairement conscient de ce que c'est qu'écrire. Et peut-être à ce moment-là, les gens le sentiront plus comme un contemporain. J'ai pas voulu l'appeler poète, parce que justement, Dante poète, on le remettait sur l'habituel piédestal, mais en réalité, ce que je voulais faire connaître, c'était le poète. Mais à ce moment-là, il fallait que je fasse des citations, et je me suis aperçue que les citations que je faisais, elles étaient très ennuyeuse, parce que c'était des citations de traducteurs qui se servaient de beaucoup d'archaïsmes. Or, Dante, ça n'avait pas lieu pour lui d'être, puisqu'il était en train d'inventer une nouvelle langue. Donc, c'était entièrement tourné vers le futur. Il n'y avait pas de choses anciennes. Et donc, je me suis dit, il faut le traduire. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à le traduire et je me suis aperçue que c'était plus facile que je ne croyais. C'est-à-dire, si on était imprégné du rythme de Dante, qui est un rythme extraordinaire, le rythme de Dante, et qui n'est pas la métrique, parce que le maître de Dante, c'est des endécasyllabes qui sont déjà extraordinaires par rapport à la prosodie française, qui est très, très symétrique. Mais là, je me suis aperçue qu'il fallait que c'était un rythme tout à fait inventé, extraordinairement libre. Et que là, ce qui me servait, c'était la prosodie actuelle, la prosodie de la poésie du XXe siècle, et pas du tout la prosodie classique.
C'est peut-être parce que vous êtes poète, Jacqueline Risset, que vous avez réussi cette formidable traduction et vous avez été finalement, sur les traces aussi d'un Yves Bonnefoy nous restituant un Shakespeare complètement décrassé.
Ben, je crois que c'est important d'avoir une expérience poétique. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de publier des poèmes. Ça veut dire avoir une intensité. Parce que, je veux dire, moi, je n'aimerais pas qu'on dise qu'il n'y a que les poètes qui puissent traduire la poésie. Parce que ça voudrait dire faire une espèce d'exclusion. Combien de livres de poésie avez-vous publié, vous pouvez traduire. En réalité, je crois que l'intensité de l'expérience poétique est en effet nécessaire. Ça veut dire qu'il faut aussi connaître aussi la poésie de son propre pays. Parce que je me suis aperçue que chaque fois que j'avais des difficultés à traduire un morceau de Dante particulièrement beau et particulièrement ardu, eh ben, ce qui m'apportait la solution, c'était Rimbaud. par exemple, ou des poètes plus contemporains, c'est-à-dire ceux qui avaient une expérience de la langue poétique française très libre, très forte et très libre.
Vous êtes devenue italienne au fur et à mesure du temps, tout en restant française, Jacqueline Risset. Vous allez retourner vivre à Rome. Que pensez-vous et comment vivez-vous les dérives du berlusconisme ?
C'est atroce. C'est l'atrocité pure. C'est une chose qui a commencé il y a 14 ans. Il y a déjà 14 ans, à mon avis, on le sentait déjà. Mais il a
fallu. À quoi ?
Au fait qu'il y avait une espèce de prise de possession pas uniquement de la vulgarité. La vulgarité est un aspect, disons, extérieur. Mais on sentait qu'il y avait une espèce de déni de tout ce qui était les acquis de la politique italienne, des discussions même de la politique italienne. Une prise de pouvoir sans aucun. Qu'une conscience même de ce qu'on appelle la démocratie. Je veux dire, le terme de démocratie dans ce vocabulaire-là n'avait pas de sens. Et petit à petit, la chose s'est précisée et a abîmé un peu, on peut dire, le tissu de la vie civile italienne.
Pourquoi a-t-il été réélu plusieurs fois ?
Parce que les gens beaucoup d'Italiens se sont identifiés à un homme qui s'est fait lui-même ils ont pensé que comme il était devenu riche, il allait les faire devenir riches lui-même. Et il faut dire que c'est devenu aussi à cause de l'emprise des télévisions. Cet homme est l'homme le plus riche d'Italie et il possède, ce qui est absolument anormal, il a le contrôle de la télévision nationale et il possède un grand nombre de télévisions